Paul Lafargue, Le socialisme et les intellectuels. Chapitre 1er. Citoyennes et citoyens, je me félicite de faire cette conférence sous la présidence de Vaillant, parce qu'elle est un gage de l'union étroite et durable de nos deux organisations, et parce que Vaillant est un des intellectuels du Parti socialiste. Il est sans contredit le plus savant des socialistes français, et peut-être des socialistes européens, maintenant que Marx, Engels et Lavrov ne sont plus parmi nous. Le groupe des étudiants collectivistes qui a organisé cette conférence a été amené à choisir ce sujet parce que le socialisme français vient de traverser une crise qui n'est pas précisément de croissance, quoi qu'on ait dit, mais qui a été causée par l'arrivée d'un certain nombre d'intellectuels bourgeois dans les rangs du parti. Il est donc intéressant de s'enquérir de la situation des intellectuels dans la société capitaliste, de leur rôle historique depuis la révolution de 1789, et de la façon dont la bourgeoisie a tenu les promesses qu'elle leur avait faites alors qu'elle luttait contre l'aristocratie. Le XVIIIe siècle fut le siècle de la raison. Tout, religion, philosophie, science, politique, privilèges de classe, d'État, de corporation, fut soumise à son impitoyable critique. Jamais dans l'histoire il n'y avait eu une telle fermentation d'idées et une telle préparation révolutionnaire des têtes. Mirabeau, qui lui-même joua un grand rôle dans l'agitation idéologique, pouvait avec raison dire dans l'Assemblée nationale « Nous n'avons pas le temps de penser, mais par bonheur, nous avons provision d'idées. » Il ne s'agissait que de les réaliser. La bourgeoisie, pour récompenser les intellectuels qui avaient travaillé avec tant d'enthousiasme à la venue de sa révolution, leur promit honneurs et faveurs. L'intelligence et le savoir, ainsi que la vertu, seraient les seuls privilèges de la société qu'elle fondait sur les ruines de l'ancien régime. Les promesses lui coûtaient peu. Elle annonçait à tous les hommes qu'elle leur apportait la joie et le bonheur, avec la liberté, l'égalité et la fraternité, qui, bien que principes éternels, naissaient pour la première fois. Son monde social devait être si nouveau que bien avant la proclamation de la République, Camille Desmoulins demandait de commencer une ère nouvelle qui prendrait pour point de départ la prise de la Bastille. Je n'ai pas à vous apprendre l'application que la bourgeoisie a faite de ces principes éternels que, par cynique raillerie, elle grave au fronton de ses prisons, de ses chiourmes, de ses casernes et de ses ateliers d'État. Mais je tiens à rappeler que les tribus sauvages et barbares, non corrompues par la civilisation, vivant sous le régime de la propriété communiste, sans écrire nulle part ces principes éternels, sans même les formuler, les pratiquent d'une manière plus parfaite que jamais n'auraient pu le rêver les bourgeois qui les découvraient en 1789. Il ne fallut pas longtemps attendre pour être renseigné sur la valeur des promesses de la bourgeoisie. Le jour même qu'elle ouvrait boutique politique, elle commença la banqueroute. L'Assemblée constituante, qui rédigeait les droits de l'homme et du citoyen, et qui proclamait l'égalité des citoyens devant la loi, discutait et votait en 1790 une loi électorale établissant l'inégalité devant la loi. N'était qu'électeur que le citoyen actif payant en argent une imposition directe équivalent à 3 journées de travail et n'était éligible que le citoyen payant une imposition directe d'un marc d'argent, soit 55 francs. Mais avec la loi du marc d'argent clamèrent Loustalot, Desmoulins et les intellectuels sans bien fond. Jean-Jacques Rousseau, dont le contrat social est la Bible de la Révolution, ne serait ni électeur ni éligible. La loi électorale écartait du droit politique un nombre si considérable de citoyens qu'aux élections municipales de 1790, à Paris, ville qui comptait plus d'un demi-million d'habitants, il n'y eut que 12 000 électeurs. Bailly fut élu maire par 10 000 suffrages. Si les principes éternels n'avaient rien de nouveau, les chatoyantes promesses faites aux intellectuels avaient eu un commencement de réalisation bien avant la venue de la bourgeoisie au pouvoir. L'Église, qui est une démocratie théocratique, ouvre son sein à tous, et tous, pour y rentrer, déposent leurs titres et privilèges, et tous peuvent aspirer à ses positions les plus élevées. Des papes sont sortis des rangs inférieurs de la société. Sixte Quint avait été dans sa jeunesse gardeur de pourceaux. L'Église du Moyen-Âge attirait à elle jalousement les intelligences et les savants. Cependant, elle respectait la volonté de ceux qui désiraient rester laïcs. mais étendait sur eux sa protection et ses faveurs. Elle leur permettait toutes les hardiesses de la pensée à la seule condition de conserver les apparences de la foi et de ne pas faire sortir la science de l'enceinte sacrée pour la répandre chez les profanes. Ainsi, Copernic put écrire et dédier au pape son traité sur les révolutions des corps célestes, où, contrairement à ce qu'enseigne la Bible, il démontre que la Terre tourne autour du Soleil, le centre de notre système planétaire. Mais Copernic était chanoine à Franembourg, et il écrivait en latin. Quand un siècle plus tard, Galilée, qui n'était pas incorporé au clergé et qui au contraire recherchait la protection des autorités laïques, professa publiquement à Venise et à Florence les théories de Copernic, le Vatican étendit sur lui sa terrible main et força l'illustre vieillard à renier sa croyance scientifique. Même après la crise du protestantisme, l'Église conserva son libéralisme à l'égard des savants qui lui appartenaient. Mersenne, religieux de l'ordre des Minimes, un des grands géomètres du XVIIe, précurseur et ami de Descartes, correspondait librement avec Hobbes, le père du matérialisme moderne. Les notes de l'édition française de De Sive contiennent des fragments de cette correspondance. L'Église, en tenant cette conduite libérale, a pu être animée d'un amour désintéressé de la science pure, mais ce qui surtout la préoccupait, c'était l'intérêt de sa domination. Elle voulait monopoliser les intelligences et le savoir, ainsi que dans l'antique et théocratique Égypte l'avaient fait les prêtres, auprès de qui les penseurs grecs allèrent chercher les premiers éléments des sciences et de la philosophie. Ce serait insulter la bourgeoisie que de lui attribuer un amour désintéressé de la science, qui selon elle n'a qu'une raison d'être. Utiliser les forces naturelles pour accroître ses richesses. Elle n'a nul souci de la spéculation pure, et c'est à son corps défendant qu'elle laisse ses savants consacrer à des recherches théoriques leur énergie intellectuelle, au lieu de l'épuiser à des applications pratiques. Ce dédain pour la spéculation pure se montre sous une forme philosophique dans le positivisme d'Auguste Comte, qui incarne si bien l'étroitesse du grossier esprit de la bourgeoisie. Mais si la science qui ne rapporte pas des applications industrielles n'intéresse pas la bourgeoisie, sa sollicitude pour les intellectuels ne prend aucun des caractères qu'autrefois avait eu celle de l'Église, et nulle part son peu de souci pour eux ne se manifeste mieux que par la situation devant la loi qui est faite à la propriété matérielle et à la propriété intellectuelle. La propriété matérielle, quelle que soit son origine, de par la loi bourgeoise, est éternelle. Elle est pour toujours assurée à son possesseur. Elle se transmet de père en fils jusqu'à la fin des siècles, sans qu'aucun pouvoir civil ou politique puisse porter sur elle une main sacrilège. Nous avons eu dernièrement un exemple caractéristique de cette intangibilité de la propriété matérielle. Le gardien du sémaphore de Durban transmettait au bourg des dépêches héliographiques les renseignant sur les navires qui entraient dans le port, sur les hommes, les chevaux et le matériel de guerre qu'il transportait. Sa trahison lui rapporta 425 000 francs, qu'en intelligent capitaliste, il déposa à la banque. Les autorités militaires anglaises ont saisi le traître, l'ont condamné et fusillé. Mais elles ont respecté sa propriété si honorablement acquise, et sa veuve et son fils en sont aujourd'hui les légitimes possesseurs. La loi, à quelques variations près, étant la même dans tous les pays capitalistes, les choses se passent en France comme en Angleterre. Aucune autorité ne pouvait mettre la main sur les propriétés de Bazaine ni faire dégorger aux lesseps cotués à leurs familles les millions qu'ils avaient subtilisés au gogo du Panama. La légalité qui sacro-sanctifie la propriété matérielle est nouvelle. Elle date en France de la Révolution de 1789. L'Ancien Régime, qui avait un mince respect pour ce genre de propriété, autorisait la confiscation des biens du condamné. Et l'abolition de la confiscation est une des premières réformes demandées par les cahiers de Paris et de plusieurs villes de province aux États généraux. La bourgeoisie, en interdisant la confiscation des biens obtenus par des moyens frauduleux et infâmes, proclame que l'origine de sa fortune est tout aussi frauduleuse et infâme que celle des criminels et des traîtres. La légalité bourgeoise n'a aucune de ces aménités pour la propriété intellectuelle. La propriété littéraire et artistique, la seule que la loi protège, n'a qu'une durée précaire limitée au vivant de l'écrivain, et un certain temps après sa mort, 50 ans d'après la dernière législation. Ce moment passé, elle devient caduque et tombe dans le domaine public. De sorte qu'à partir de mars de cette année, les éditeurs ont le droit de s'enrichir en publiant les œuvres de Balzac, le génie de la littérature romantique. La propriété littéraire, si elle intéresse les éditeurs, peu nombreux en définitive, ne rapporte aucun bénéfice à la masse capitaliste. Mais s'il n'en est pas de même pour la propriété des inventions, qui est d'une importance capitale pour la bourgeoisie industrielle et commerciale tout entière. Aussi, la loi n'étant sur elle aucune protection. L'inventeur, s'il veut défendre son bien intellectuel contre les pillards bourgeois, doit commencer par acheter ce droit, en prenant un brevet qu'il doit renouveler tous les ans. Un jour d'incapacité dans le paiement de cet impôt fait de sa propriété intellectuelle la proie légitime des voleurs de la bourgeoisie. Même en payant, il ne peut que, pendant un temps, 14 ans en France, s'assurer de ce droit. Et pendant ce court nombre d'années, généralement insuffisant pour faire entrer complètement son invention dans la pratique industrielle, c'est lui, l'inventeur, qui a ses propres frais, doit mettre en mouvement la loi et la justice contre les pillards bourgeois qui le dépouillent. La marque de fabrique, qui est une propriété bourgeoise n'ayant jamais demandé aucun effort intellectuel, est au contraire indéfiniment protégée par la loi, comme la propriété matérielle. La bourgeoisie n'a accordé qu'en rechignant à l'inventeur le droit de défendre sa propriété intellectuelle, car, de par son droit de classe régnante, elle se croit maîtresse des fruits du travail intellectuel aussi bien que du travail manuel, comme le seigneur féodal s'arrogeait le droit de possession sur les biens de ses serfs. L'histoire des inventeurs de notre siècle est la monotone histoire de leur dépouillement par les capitalistes. Elle est un long et lugubre martyrologe. L'inventeur, de par son génie, est condamné, lui et sa famille, à la ruine et à la souffrance. Ce ne sont pas seulement des inventions exigeant de longues et laborieuses recherches, des dépenses considérables pour aboutir et du temps pour être acceptées, qui précipitent l'inventeur dans la géhenne de la pauvreté. Mais encore les plus simples, les plus immédiatement applicables et les plus fécondes en riches résultats. Je ne citerai qu'un exemple. Il mourait dernièrement à Paris, dans une profonde misère, un homme dont l'invention fait gagner tous les ans des centaines de mille francs et des millions aux chemins de fer et aux compagnies minières. Il avait découvert le moyen d'utiliser les collines de poussière de charbon qui encombraient les alentours des gares et des trous de mines, en les convertissant en briquettes, aujourd'hui d'un usage courant. Chapitre 2. La bourgeoisie capitaliste, la classe la plus révolutionnaire qui ait jamais opprimé les sociétés humaines, ne peut accroître ses richesses qu'en révolutionnant sans cesse ses moyens de production, qu'en incorporant sans cesse à l'outillage industriel de nouvelles applications des sciences mécaniques, chimiques et physiques. Son besoin d'invention est si insatiable qu'elle a créé des fabriques d'inventions. Des capitalistes américains se sont associés afin de construire à Mango Park, pour Edison, le plus merveilleux laboratoire du monde, et afin de mettre à sa disposition les savants, les ouvriers d'élite et les moyens matériels nécessaires pour faire et toujours faire des inventions que les capitalistes brevettent, exploitent ou vendent. Edison, qui est lui-même un homme d'affaires des plus avisés, a pris des précautions pour s'assurer une partie des bénéfices que rapportent les inventions de Mango Park. Mais tous les inventeurs ne peuvent, ainsi qu'Edison, poser des conditions aux capitalistes qui montent des fabriques d'inventions pour les exploiter. La compagnie Thomson Houston à Paris et Siemens à Londres et à Berlin, à côté de leurs ateliers de construction de machines électriques, ont des laboratoires où des ingénieurs sont occupés à rechercher de nouvelles applications de l'électricité. À Francfort, la fabrique de couleurs d'aniline, la plus colossale du monde, où fut découverte l'antipyrine, cette quinine minérale, salarie plus de 100 chimistes pour découvrir de nouveaux produits dans le charbon de terre. Chaque trouvaille est immédiatement brevetée par la maison qui, à titre d'encouragement, donne une gratification à l'inventeur. On peut, jusqu'à un certain point, considérer toutes les fabriques et tous les ateliers comme des laboratoires d'invention, car un nombre considérable de perfectionnements de l'outillage mécanique ont été trouvés par des ouvriers durant la marche du travail. L'inventeur n'ayant pas d'argent pour breveter et appliquer sa trouvaille, le patron prend le brevet en son nom, et ainsi que le veut la justice bourgeoise, c'est lui qui en récolte tous les bénéfices. Et quand le gouvernement se met en tête de récompenser le talent, c'est le patron qui le décore. L'ouvrier inventeur, qui n'est pas un intellectuel, continue à turbiner sous sa côte noire et graisseuse, et comme dans ce monde capitaliste, il faut se contenter de peu, il se console de sa misère en se disant que son invention rapporte bénéfices et honneurs au patron. La bourgeoisie qui, pour accroître ses biens, a un besoin pressant d'invention, a un besoin encore plus impérieux d'intellectuels pour surveiller les applications et diriger son outillage industriel. Les capitalistes, avant de monter des fabriques d'invention, avaient organisé des manufactures d'intellectuels. Les Dollfuss, les Scherer Kessner et les autres patrons de l'Alsace, les plus intelligents, les plus philanthropes et par conséquent les plus exploiteurs de la France d'avant la guerre, avaient fondé de leurs deniers, à Mulhouse, des écoles de dessin, de chimie, de physique, où les enfants les plus éveillés de leurs ouvriers étaient gratuitement instruits, afin qu'ils eussent, toujours sous la main et à bon compte, les capacités intellectuelles que réclamait le fonctionnement de leurs industries. Le directeur de l'école de Mulhouse détermina, il y a une vingtaine d'années, le conseil municipal de Paris à établir l'école de chimie et de physique de la ville. Au début, je ne sais encore si c'est le cas, les élèves étaient recrutés dans les écoles communales. Ils recevaient gratuitement une éducation supérieure, un déjeuner à midi à l'école, et 50 francs par mois pour indemniser les parents des pertes qu'ils éprouvaient du fait que leur fils n'allait pas à l'atelier. Le marquis de Foucault pouvait, à la tribune de l'Assemblée constituante de 1790, déclarer que, pour être laboureur, il n'était pas nécessaire de savoir lire et écrire. Les nécessités de la production industrielle obligent la bourgeoisie capitaliste à tenir un tout autre langage. L'intérêt économique, et non l'amour de l'humanité et de la science, l'oblige à encourager et à développer l'instruction primaire et secondaire. Mais les marchands d'esclaves de la Rome antique étaient, au même titre, partisans de l'instruction. Aux plus intelligents de leurs marchandises humaines, ils enseignaient la médecine, la philosophie, la littérature grecque, la musique, les sciences, etc. L'éducation de l'esclave augmentait sa valeur vénale. L'esclave cuisinier était vendu plus cher que l'esclave médecin, philosophe ou littérateur. De nos jours, il en est encore ainsi. Les gros capitalistes paient plus cher leurs chefs de cuisine que l'État salarie les professeurs de faculté, membres de l'Institut. Mais contrairement aux marchands d'esclaves, la bourgeoisie ne répand l'instruction que pour abaisser la valeur vénale des capacités intellectuelles. La mythologie grecque raconte que Midas avait le don de transformer tout en or. La bourgeoisie possède une semblable propriété. Elle transforme en marchandise tout ce qu'elle touche. Elle a métamorphosé en marchandise les capacités intellectuelles. On achète des chimistes, des ingénieurs, des latinistes, comme on achète des bourriques et du guano. Et on achète des députés aussi. Les capacités intellectuelles devenues marchandises doivent subir et subissent le sort des marchandises. Quant aux halles, il y a beaucoup d'huîtres, le prix des huîtres diminue. Mais quand les arrivages sont raréfiés, le prix hausse. Quand sur le marché du travail, les chimistes et les ingénieurs abondent, le prix des ingénieurs et des chimistes s'abaisse. Depuis que l'école centrale, que l'école de physique et de chimie, jette tous les ans sur le pavé de Paris des chimistes par douzaines, leur prix a considérablement baissé. Il y a une vingtaine d'années, le capitaliste payait un chimiste raisonnablement. Il lui donnait 500 à 600 francs par mois et l'engageait à l'année. Les patrons qui ont d'autant plus d'égard pour le salarié, qu'il le paie plus cher, étaient pleins de politesse et de considération pour leur chimiste si haut coté. Mais depuis qu'ils abondent, leur prix est tombé à 200, même à 150 francs par mois. Dans le Nord, ils ne sont pas pris à l'année, mais pour la campagne sucrière, qui dure 3 à 4 mois, au bout desquels on les renvoie avec les manœuvres. « Va crever où tu pourras, » dit le patron. « À l'automne prochain, je sais que je trouverai avec des betteraves des chimistes pour surveiller leur transformation en sucre. » Les chimistes ne font pas exception. Vous ne savez que trop que dans toutes les branches, il y a surproduction d'intellectuels, et que quand une place est libre, il se présente des dizaines et des centaines pour l'occuper. Et c'est cette presse qui permet aux capitalistes d'abaisser le prix des intellectuels et de le faire descendre souvent au-dessous du salaire de l'ouvrier manuel. La misère économique est plus dure pour l'intellectuel que pour l'ouvrier. Elle le meurtrit moralement et physiquement. L'ouvrier, bravant dès l'enfance les intempéries et roulant dans la rue et les ateliers, est habitué à supporter les rudesses de la vie. L'intellectuel, élevé dans une serre chaude, s'étiole pendant sa jeunesse à l'ombre des murs des écoles. Son système nerveux s'hypertrophie, s'affine et acquiert une impressionnabilité maladive. Ce que l'ouvrier supporte avec insouciance l'ébranle douloureusement. L'intellectuel est blessé, jusque dans les profondeurs de son être moral, par les nécessités de la vie salariée. À salaire égal et même supérieur, l'intellectuel est dans une situation économique inférieure à celle de l'ouvrier, qui pour se rendre au travail n'a qu'à passer son bourgeron, tandis que l'intellectuel, quand ce ne serait que pour ne pas offusquer l'œil du patron et de ses chefs, avec qui il est constamment en contact, est astreint à une tenue coûteuse et même élégante. Il économise sur la nourriture ce qu'il est forcé de dépenser pour le vêtement. Les capitalistes ont abaissé les intellectuels au-dessous du niveau économique des ouvriers manuels. C'est ainsi qu'il les récompense d'avoir si magnifiquement préparé la révolution bourgeoise du siècle dernier. Chapitre 3. Jaurès, dans sa préface de l'histoire socialiste, dit que la bourgeoisie intellectuelle, offensée par une société brutale et mercantile et désenchantée du pouvoir bourgeois, se rallie au socialisme. Malheureusement, rien n'est plus inexact. Cette transformation des facultés intellectuelles en marchandises, qui aurait dû remplir de colère et d'indignation l'âme des intellectuels, les laisse indifférents. Jamais les citoyens libres des républiques antiques d'Athènes et de Rome n'auraient supporté une telle dégradation. L'homme libre qui vend son travail, dit Cicéron, s'abaisse au rang des esclaves. Socrate et Platon s'indignaient contre les sophistes qui faisaient payer leur enseignement philosophique. La pensée était, selon eux, chose trop noble pour être vendue et achetée, ainsi que des carottes et des savates. Même le clergé français de 1789 ressentit comme une mortelle insulte la proposition de salarier le culte. Mais nos intellectuels s'accommodent de cet avilissement. Torturés par la passion mercantile, ils ne sont jamais plus satisfaits d'eux-mêmes et de la société que lorsqu'ils parviennent à vendre à un bon prix leurs marchandises intellectuelles. Ils en arrivent même à faire de son prix de vente la mesure de sa valeur. Zola, qui est un des représentants les plus distingués de l'intellectualisme littéraire, estime la valeur artistique d'un roman au nombre des éditions vendues. Vendre la marchandise intellectuelle est devenu si bien leur absorbante préoccupation que lorsqu'on leur parle du socialisme, avant de s'enquérir de ses théories, ils demandent si dans la société socialiste, le travail intellectuel sera payé et si pour sa rétribution, il sera placé sur le pied d'égalité avec le travail manuel. Imbéciles. Ils ont des yeux pour ne pas voir que c'est la bourgeoisie capitaliste qui établit cette grossière égalité, que c'est elle qui, pour accroître sa richesse, avilit le travail intellectuel au point de le payer à un prix inférieur au travail manuel. Il faudrait remettre, non pas à l'an 2000, mais à la fin du monde, le triomphe du socialisme, s'il nous fallait tabler sur les délicatesses, les pudibonderies et les susceptibilités des intellectuels. L'histoire du siècle est là pour nous apprendre ce que nous devons espérer de ces messieurs. Depuis 1789, les gouvernements les plus divers et les plus opposés se sont succédés en France, et toujours, sans hésitation, les intellectuels se sont empressés de leur apporter leurs services dévoués. Je ne parle pas seulement de ces intellectuels à 4 sous la douzaine qui encombrent les journaux, les assemblées parlementaires, les sociétés d'économie politique, mais des savants, des professeurs de faculté, des membres de l'Institut. Plus ils se dressaient haut dans la science et plus bas ils courbaient l'échine. Des princes de la science, qui auraient dû parler d'égal à égal avec les rois et les empereurs, ont monnayé leur gloire pour racheter à des ministres éphémères les places et les faveurs. Cuvier, un des plus puissants génies de l'époque moderne, que la Révolution prit dans la domesticité d'un grand seigneur pour en faire, à 25 ans, un de ses professeurs du muséum, prêta serment et servit avec la même fidélité la République, Napoléon, Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe, qui le nomma même pair de France pour récompenser sa carrière de servilité. Se dévouer sans distinction à tous les gouvernements ne suffit pas. Pasteur mit son nom glorieux au service des financiers, qui le placèrent dans le conseil d'administration du crédit foncier, côte à côte avec ceux de Jules Simon, de ducs et comtes, de sénateurs et députés et d'anciens ministres pour attirer les gogos. Lesseps, pour monter sa colossale escroquerie du Panama, enrôla les intellectuels de l'Institut, de l'Académie française, de la littérature, du clergé, de tous les mondes. Ce n'est pas dans le monde des intellectuels, avilis par un siècle d'oppression capitaliste, qu'il faut aller chercher des exemples de courage civique et de dignité morale. Ils n'ont même pas le sentiment de solidarité professionnelle. Lors de l'affaire Dreyfus, un ministre quelconque dégomma, comme un simple garde-chiourme, un professeur de chimie de l'école polytechnique qui avait eu l'audace rare d'exprimer publiquement son opinion. Quand dans un atelier le patron renvoie arbitrairement un ouvrier, les camarades grognent et parfois quittent le travail, bien que la misère et la faim les attendent dans la rue. Tous ses collègues de l'école polytechnique courbèrent la tête et se turent. Chacun se serra dans sa peur égoïste. Et ce qui est plus caractéristique encore, pas un seul des réfusards de la Société des droits de l'homme et de la presse justiciarde n'éleva la voix pour les rappeler au sentiment de la solidarité professionnelle. Les intellectuels qui, à tout propos, font exhibition de morale transcendantale, auront bien du chemin à parcourir pour s'élever jusqu'au niveau moral de la classe ouvrière et du Parti socialiste. Les savants, non seulement se sont vendus aux gouvernements et aux financiers, mais ils ont vendu la science à la bourgeoisie capitaliste. Quand au siècle dernier il fallait préparer les têtes à la révolution en sapant les bases idéologiques de la société aristocratique, la science remplissait alors sa sublime mission émancipatrice. Elle était révolutionnaire, elle attaquait avec fureur le christianisme et la philosophie spiritualiste. Mais quand la bourgeoisie victorieuse décida d'asseoir son pouvoir nouveau sur la religion, elle ordonna à ses savants, à ses philosophes et à ses littérateurs, de relever ce qu'ils avaient renversé. Ils se mirent à la besogne avec entrain. Ils reconstruisirent ce qu'ils avaient démoli. Ils prouvèrent par raison scientifique, sentimentale et romantique l'existence de Dieu le Père, de Jésus le Fils et de Marie la Vierge Mère. Je ne crois pas que l'histoire offre un spectacle pareil à celui que, dans les premières années du siècle, donnèrent les philosophes, les savants et les littérateurs, qui de révolutionnaires et de matérialistes se métamorphosèrent subitement en réactionnaires, en spiritualistes et en catholiques. Ce mouvement de recul continue encore. Quand Darwin publia son Origine des espèces, qui enlevait à Dieu son rôle créateur dans le monde organique, comme Franklin l'avait dépouillé de sa foudre, nous avons vu des savants, grands et petits, des professeurs de facultés et les membres de l'Institut s'enrôler sous le commandement de Flourin, lui au moins avait ses 80 ans pour excuse, afin de démolir la théorie darwinienne, qui déplaisait au gouvernement et blessait les croyances religieuses. Les intellectuels ont donné ce honteux spectacle dans la patrie de Lamarck et de Geoffroy Saint-Hilaire, les créateurs de la théorie de l'évolution que Darwin complétait et mettait à l'abri de la critique. Si aujourd'hui que l'émoi clérical s'est un peu apaisé, les savants se risquent à professer la théorie naturaliste qu'ils n'avaient combattue que contre leur conscience scientifique. Ils la retournent contre le socialisme pour conserver les bonnes grâces des capitalistes. Herbert Spencer, Haeckel et les plus grands hommes du darwinisme démontrent que la classification des individus en riches et pauvres, en fainéants et travailleurs, en capitalistes et salariés, est le résultat nécessaire de l'action des lois inéluctables de la nature au lieu d'être l'accomplissement de la volonté et de la justice de Dieu. La sélection naturelle, disent-ils, qui a hiérarchisé les organes du corps humain, a pour toujours fixé les rangs et les fonctions des corps sociaux. Ils ont perdu par servilité jusqu'à l'esprit logique. Les mêmes qui s'indignent contre Aristote, qui ne pouvant concevoir l'abolition de l'esclavage, déclaraient que l'esclave était marqué par la nature, ne s'aperçoivent pas qu'ils disent une semblable monstruosité quand ils affirment que la sélection naturelle assigne à chacun sa place dans la société. Ainsi donc, ce n'est plus Dieu, ce ne sont plus les religions qui condamnent les travailleurs à la misère, c'est la science. Y a-t-il jamais eu banqueroute plus frauduleuse? Monsieur Brunetière, un de ces intellectuels qui ne ressent pas sa dégradation et qui remplit allègrement sa tâche servile, avait raison quand il proclamait la faillite de la science. Il ne se doute pas combien colossale est cette banqueroute. La science, la grande émancipatrice, qui en domestiquant les forces de la nature aurait dû affranchir l'homme du travail pour qu'il pût librement développer ses facultés physiques et intellectuelles. La science, domestiquée par le capital, n'ainsi que fournir aux capitalistes des moyens pour accroître leurs richesses et pour intensifier leur exploitation de la classe ouvrière. Ces applications les plus merveilleuses n'ont apporté aux enfants, aux femmes et aux hommes du prolétariat que surtravail et misère. Les bourgeois révolutionnaires de 1789 poussèrent des cris d'horreur et d'indignation contre des seigneurs qui, pendant les chaudes nuits d'été, obligeaient leurs serfs à battre les étangs situés près de leur château afin d'empêcher les grenouilles de coasser. Que dirait-il s'il voyait ce que nous voyons? Les progrès de l'éclairage datent de la période capitaliste. À la fin du siècle dernier, Argand et Garcel inventèrent la lampe à double courant d'air et à crémaillère. Au commencement de celui-ci, Chevreul découvrit la bougie stéarique. Puis on trouva le gaz, le pétrole, la lampe électrique, ce soleil de la nuit. Quels bienfaits ont apporté à l'ouvrier ces perfectionnements scientifiques de l'éclairage? Ils ont permis aux industriels d'imposer le travail de nuit à des millions de prolétaires, non plus dans des nuits caniculaires et dans l'air embaumé des champs, mais durant les nuits d'été et d'hiver dans l'atmosphère empestée des fabriques et des usines. Les applications industrielles de la mécanique et de la chimie ont transformé le travail joyeux et fortifiant de l'artisan en une torture qui use et tue le prolétaire. La science, en domestiquant au service de l'homme les forces de la nature, n'aurait-elle pas pu donner des loisirs aux travailleurs pour qu'ils puissent se développer physiquement et intellectuellement? N'aurait-elle pas pu faire de cette vallée de larmes un séjour de paix et de joie? Je vous le demande. Est-ce que la science n'a pas failli à sa mission émancipatrice? L'obtus capitaliste lui-même a conscience de cette faillite. Aussi, il ordonne à ses économistes et à ses autres domestiques intellectuels de prouver à la classe ouvrière que jamais elle n'a été aussi heureuse et que son sort va s'améliorant. Les économistes, considérant que pour mériter les bonnes grâces des capitalistes, ce n'était pas suffisant de falsifier les faits économiques, suppriment la science économique, qui devient dangereuse pour la domination du capital. Depuis Adam Smith et Ricardo, ils se bornent à ressasser les mêmes erreurs sur la valeur, sur la productivité du capitaliste voleur et fainéant, à compiler des faits et à dresser des statistiques qui permettent aux capitalistes de diriger leurs spéculations. Mais ils n'osent tirer des conclusions et bâtir des systèmes avec les matériaux qu'ils ont accumulés. Quand Ricardo écrivait, les phénomènes de la production moderne commençaient leur évolution. On ne pouvait apercevoir leur tendance communiste. On ne pouvait donc les étudier sans parti pris. On pouvait faire de la science sans crainte de blesser les intérêts du capital. Mais aujourd'hui que parvenus à leur complet développement, ils manifestent clairement leur tendance communiste. Les économistes se crèvent les yeux pour ne point les voir, et ils partent en guerre contre les principes établis par Ricardo, qui, après avoir servi de base à l'ancienne économie bourgeoise, sont devenus les points de départ de l'économie marxiste. Faire le coup de poing contre les théories socialistes et se mettre au service des financiers, comme aboyeurs et camelots de leur escroquerie, sont les fonctions intellectuelles des économistes. Dernièrement, les propriétaires des mines d'argent les embrigadaient pour chanter les charmes du bimétallisme, tandis que Cecil Rhodes, Barnato, Belt, Voleurs et compagnie les enrôlaient pour lancer les mines d'or du Transvaal. Les intellectuels de l'art et de la littérature, ainsi que les fous des anciennes cours féodales, sont les amuseurs de la classe qui paie. Satisfaire les goûts des capitalistes et les désennuyer. Voilà toutes leurs préoccupations artistiques. Les littérateurs sont si bien assouplis à cette besogne dégradante qu'ils ne comprennent pas l'esprit de Molière, leur grand ancêtre, dont cependant ils adorent la lettre. Molière est l'écrivain sur lequel on a le plus écrit en France. des érudits se sont dévoués à ramasser les bribes éparses de sa jeunesse errante et improvisatrice, à fixer la date et l'heure de la représentation de ses comédies. S'ils avaient déterré une de ses crottes authentiques, ils l'auraient enchâssée dans l'or et le baiseraient dévotement. Mais l'esprit de Molière leur échappe. Vous avez, comme moi, lu bien des critiques de ses pièces. En avez-vous jamais rencontré une, mettant en pleine lumière le rôle de ce belliqueux dramaturge qui, plus d'un siècle avant Beaumarchais et avant la Révolution, poignarda à Versailles, en pleine cour du roi Soleil, la noblesse de cour et la noblesse de province, qui attaqua l'Église, devant qui tremblait Descartes et tout le monde, qui décocha des plaisanteries contre Aristote, l'autorité incontestée de la Sorbonne, cette Église laïque qui ridiculisa le pyrrhonisme que le néo-kantien de nos jours oppose à la philosophie matérialiste du socialisme marxiste, mais qui alors était l'arme des catholiques, de Pascal, de Huet, l'évêque d'Avranches, pour frapper et terrasser la raison humaine, ayant l'imprudence de vouloir arriver à la connaissance par ses seules forces. Chétive, misérable raison, clamaient ces kantiens d'avant-Kant, tu ne peux rien connaître sans le secours de la foi. Molière est unique dans la littérature moderne. Il faut remonter jusqu'à l'époque athénienne, jusqu'à Aristophane, pour trouver à qui le comparer. Si les critiques bourgeois mentionnent timidement et inintelligemment ce côté de Molière, il en est un autre qu'ils ignorent complètement. Molière fut l'homme de sa classe, le champion de la classe bourgeoise. Ainsi que les socialistes qui disent aux ouvriers « Brisez avec la bourgeoisie libérale qui vous dupe quand elle ne vous massacre pas », il cria aux Georges Dandin et aux bourgeois gentilshommes « Fuyez les nobles comme des pestiférés, ils vous trompent, vous raillent et vous pillent. » La plus haute bourgeoisie capitaliste n'entend faire l'œuvre ni de ses mains ni de son cerveau. Elle ne veut que boire, manger et paillarder et se prélasser dans son luxe aussi grossier qu'encombrant. Elle ne daigne même pas s'occuper de politique. Les Rothschild, les Lesseps, les Vanderbilt, les Carnegies et les Rockefeller ne briguent pas les mandats électifs. Ils trouvent plus économique d'acheter les élus que les électeurs, et plus commode de caser leurs commis dans les ministères que de prendre part aux luttes parlementaires. Les gros capitalistes ne s'intéressent qu'aux opérations de bourse parce qu'elles procurent les émotions du jeu. Ils les décorent du mot pompeux de spéculation, autrefois réservé aux plus hautes opérations de la pensée philosophique et mathématique. Les capitalistes se font remplacer dans l'administration et la direction des grandes entreprises industrielles et commerciales par des intellectuels, qui les roulent, bien qu'ils soient d'ordinaire bien payés. Ces intellectuels de l'industrie et de la politique, qui sont des privilégiés du salariat, considèrent qu'ils font partie intégrante de la classe capitaliste, dont ils ne sont que les serviteurs. En toute occasion, ils prennent sa défense contre la classe ouvrière dont ils sont les pires ennemis. Cette catégorie d'intellectuels ne pourra jamais être amenée au socialisme. Leurs intérêts sont trop intimement liés à ceux de la classe capitaliste pour qu'ils s'en détachent et se retournent contre elle. Mais au-dessous de ces privilégiés de l'intellectualisme, il existe une masse grouillante et famélique d'intellectuels dont le sort empire, à mesure que leur nombre s'accroît. Ces intellectuels appartiennent au socialisme. Ils devraient déjà être dans nos rangs. On était en droit de supposer que leur instruction aurait dû leur donner l'intelligence des problèmes sociaux. Et c'est précisément cette instruction qui leur obstrue l'entendement, et c'est elle qui les éloigne du socialisme. Ils croient que l'instruction leur confère un privilège social, qu'elle leur permettra de se tirer d'affaires individuellement, chacun faisant tout seul son chemin dans la vie, en bousculant les voisins et en montant sur les épaules de tout le monde. Ils s'imaginent que leur misère est passagère et qu'il ne faut qu'un brin de chance pour les métamorphoser en capitalistes. L'instruction est le bon numéro de la loterie sociale. Il leur fera gagner le gros lot. Ils ne s'aperçoivent pas que ce billet, donné par la classe capitaliste, est pipé, que le travail manuel ou intellectuel n'a chance que de gagner sa pitance quotidienne, qu'il n'a à espérer que d'être exploité et que plus le capitalisme ira se développant, et plus les chances d'émancipation individuelle iront diminuant. Et pendant qu'ils bâtissent des châteaux en Espagne, le capital les broie, comme il a broyé les petits commerçants et les petits industriels, qui eux aussi pensaient qu'avec le crédit gratuit et un peu de bonheur, ils pourraient devenir de bons bourgeois, dont le nom serait inscrit sur le grand livre de la dette publique. Les intellectuels, pour ceux qui regardent la compréhension du mouvement social, ne s'élèvent pas au-dessus du niveau intellectuel de ces petits bourgeois, que raillaient si férocement les rapins de 1830, qui, ruinés et précipités dans le prolétariat, n'en continuaient pas moins d'abominer le socialisme, tellement leur tête était pervertie par la religion de la propriété. Les intellectuels, dont la cervelle est farcie de tous les préjugés de la classe bourgeoise, sont inférieurs à ces petits bourgeois de 1830 et 1848, qui savaient faire parler la poudre. Ils n'ont pas leur esprit de combativité. Ils sont de vrais imbéciles, en restituant à ce mot son sens original latin, impropre à la guerre. Ils supportent sans se rebiffer les rebuffades et les injustices, et ne songent pas à s'unir, à se syndiquer pour défendre leurs intérêts et livrer bataille économique contre le capital. Le prolétariat intellectuel que nous connaissons est de formation récente. Il s'est surtout développé dans ces 40 dernières années. Quand après l'amnistie des condamnés de la Commune, nous avons recommencé la propagande socialiste, croyant qu'il serait facile de l'entraîner dans le mouvement, nous vîmes nous loger dans son champ de culture, dans le quartier latin. Guède demeurait rue de la Pitié, Vaillant rue Monge, et moi, boulevard de Port-Royal. Nous avons noué des relations avec des centaines de jeunes gens, étudiant la médecine, le droit, les sciences. Mais c'est sur les doigts que l'on peut compter ceux que nous avons conquis au socialisme. Nos idées les séduisaient un jour, mais le vent soufflant le lendemain d'un autre point de l'horizon faisait tourner leur cervelle. Un honorable commerçant de Bordeaux, décoré, conseiller municipal et conservateur convaincu, disait sous l'empire à mon père qui se tourmentait de mon socialisme. « Ami Lafargue, il faut que jeunesse se passe. J'ai été socialiste. Quand j'étudiais à Paris, j'ai été affilié aux sociétés secrètes et j'ai fait partie de la manifestation qui alla demander à Louis-Philippe la grâce de Barbès. » Nous avons salué avec joie la venue de Jaurès au socialisme. Nous pensions que la forme nouvelle qu'il apportait à la propagande le ferait pénétrer dans les milieux que nous n'avions pu entamer. Il a en effet ébranlé le milieu universitaire, et c'est en partie grâce à lui que les nourrissons de l'école normale ont sur le mouvement social des idées moins saugrenues et moins informes que celles dont leur science et leur intelligence s'étaient contentées jusque-là. Dernièrement, faisant bande avec des politiciens radicaux qui avaient perdu leurs troupes ouvrières, ils ont envahi le Parti socialiste. Leur âme déborde des intentions les plus pures. Si leur mœurs pacifiques les empêchent de se jeter dans la mêlée, et si leur haute culture leur interdit de prendre place dans les rangs avec les camarades, ils condescendent cependant à nous enseigner la morale, à nous décrasser de notre ignorance, à nous apprendre à penser, à nous communiquer les miettes de science que nous pourrons digérer et à nous diriger. Modestement, ils s'offrent à nous comme chefs de file et maîtres d'école. Ces intellectuels, qui pendant des années ont dû user les culottes sur les bancs de l'université pour devenir des forts anthèmes, des polisseurs de phrases, des philosophes ou des médecins, s'imaginent qu'on peut s'improviser théoricien du socialisme au sortir d'une conférence ou de la lecture d'une brochure parcourue d'un œil distrait. Des naturalistes, à qui il a fallu de patientes études pour connaître les mœurs des moules, pensent qu'ils en savent assez pour régler des sociétés humaines et que c'est en restant perché sur les premiers échelons de la série animale que l'on peut le mieux entrevoir l'idéal humain. Les philosophes, les moralistes, les historiens et les politiciens ont des visées tout aussi élevées. Ils apportent abondantes provisions d'idées pour remplacer des imparfaites théories qui, dans tous les pays capitalistes, ont servi à édifier des partis socialistes nombreux, solides et disciplinés. La lutte des classes. C'est démodé, déclarent ces professeurs de socialisme. Est-ce qu'on peut établir une ligne de démarcation entre les classes? Est-ce que des ouvriers ne possèdent pas des livrets de caisse d'épargne de 100, 200 ou 500 francs, leur apportant des 3, 6 et 15 francs d'intérêt par an? Est-ce que les directeurs et administrateurs des mines, des chemins de fer, des sociétés financières ne sont pas des salariés, possédant des actions et des obligations dans les entreprises qu'ils gèrent pour le compte des capitalistes? L'argument est sans réplique. Mais à ce compte, il n'y a pas de règne végétal ni de règne animal, parce qu'on ne peut les séparer comme avec une hache, parce que, à leur point de contact, végétaux et animaux se confondent. il n'y a pas non plus de jour et de nuit, parce que le soleil n'apparaît pas à l'horizon au même moment pour toute la Terre, et parce qu'il fait jour aux antipodes, tandis qu'il fait nuit ici. La concentration du capital, vieille guitare de 1850. Les sociétés par actions et obligations morcellent la propriété et la distribuent entre tous les citoyens. Que nous étions aveuglés par notre sectarisme, nous qui pensions que cette nouvelle forme de propriété, essentiellement capitaliste, permettait aux financiers de plonger leurs mains voleuses dans les plus petites bourses pour en extraire les dernières pièces de 100 sous. La misère ouvrière? Mais elle s'atténue et va bientôt disparaître par la hausse constante des salaires, tandis que l'intérêt de l'argent diminue tous les jours. Un beau matin, il descendra à zéro, et les bourgeois seront trop heureux d'offrir sur l'autel du socialisme leurs chers capitaux. Le capitaliste, demain ou après-demain, sera forcé de travailler, ainsi que l'a prédit M. Waldeck-Rousseau, et ce sont des intellectuels, dont le sort empire à mesure que le capitalisme se développe, qui sont assez stultifiés par les dires des patrons pour affirmer que la position des salariés s'améliore, et ce sont les intellectuels qui assurent posséder quelques notions d'économie politique qui affirment que l'intérêt de l'argent est en pleine décroissance. Ces réformateurs du socialisme ignoreraient-ils par hasard que Adam Smith calculait à la fin du siècle dernier que 3% était l'intérêt normal des capitaux ne courant pas de risques et que les financiers de notre époque considèrent que c'est encore autour de 3% que doit osciller l'intérêt des placements de tout repos. S'il y a quelques années ce taux paraissait dégringoler au-dessous de 2,5%, il s'est relevé aujourd'hui au-dessus de 3%. Le capital est une marchandise, tout comme les capacités intellectuelles et les carottes. Comme tel, il subit les fluctuations de l'offre et de la demande. Il était alors plus offert que demandé, tandis que depuis le développement de l'outillage industriel de la Russie, depuis l'ouverture de la Chine à l'exploitation européenne, la surabondance du capital a été absorbée et son prix hausse avec sa rareté. Mais les intellectuels ont trop de riens à penser et trop d'harmonieuses phrases à équilibrer pour songer aux phénomènes économiques. Ils prennent pour argent comptant les fariboles intéressées des capitalistes et répètent avec conviction les vieilles rengaines de l'Église économique orthodoxe. Il n'y a plus de classe, les richesses se distribuent de plus en plus équitablement, les ouvriers s'enrichissent et les rentiers s'appauvrissent et la société capitaliste est la meilleure des sociétés possibles. Il n'y a que des sectaires et des mystiques qui puissent nier ces vérités éclatantes comme des soleils. Ces intellectuels entendent modifier la tactique aussi bien que les théories du Parti socialiste. Ils veulent lui imposer une nouvelle méthode d'action. Il ne faut plus conquérir les pouvoirs publics de haute lutte, légale ou révolutionnaire, mais se laisser conquérir par tous les ministères de concentration républicaine. Ce n'est plus opposer le Parti socialiste à tous les partis bourgeois qu'il faut. C'est le mettre au service du Parti libéral. Ce n'est plus l'organiser pour la lutte de classe qu'il faut, mais le tenir prêt à toutes les compromissions politiciennes. Et pour que la nouvelle méthode d'action triomphe, il se propose de désorganiser le Parti socialiste, de briser ses anciens cadres et de démolir les organisations qui, depuis 20 ans, travaillent à donner aux ouvriers conscience de leurs intérêts de classe et à les grouper en partis de lutte économique et politique. Mais les intellectuels en seront pour leurs frais. Ils n'ont réussi jusqu'ici qu'à resserrer les liens qui unissaient les socialistes des différentes organisations et qu'à se couvrir de ridicule. Chapitre 4. Les intellectuels de toutes les catégories auraient dû être les premiers à se révolter contre la société capitaliste dans laquelle ils occupent une position subalterne, si peu en rapport avec leurs espérances et leurs talents. Mais ils ne le comprennent même pas. Ils en ont une intelligence si confuse qu'Auguste Comte, Renan et bien d'autres plus ou moins célèbres ont rêvé de reconstituer à leur profit une aristocratie calquée sur le moderne du mandarinat chinois. C'est le passé qui prolonge son reflet dans leur tête. Car rien n'est en plus absolue opposition avec le mouvement social moderne qu'une telle prétention. Les intellectuels dans les sociétés précédentes formaient un monde en dehors et au-dessus de celui de la production, n'ayant charge que de l'éducation, de la direction religieuse et de l'administration politique. L'industrie artisane de ces sociétés combinait dans le même producteur le travail manuel et le travail intellectuel. C'était par exemple le même ouvrier ébéniste qui concevait et exécutait le meuble, qui en achetait la matière première et qui même s'occupait de sa vente. La production capitaliste a dissocié les deux fonctions, autrefois indissolublement unies. D'un côté, elle met les travailleurs manuels, qui de plus en plus deviennent des servants de machines, et elle met de l'autre les travailleurs intellectuels, ingénieurs, chimistes, administrateurs, etc. Mais ces deux catégories de travailleurs, quelque différents et contraires qu'ils soient, par leur éducation et leurs mœurs, sont soudés ensemble, au point qu'une industrie capitaliste ne peut fonctionner pas plus sans ouvriers manuels que sans salariés intellectuels. Unis dans la production et unis sous le joug de l'exploitation capitaliste, unis encore, ils doivent être dans la révolte contre l'ennemi commun. Les intellectuels, s'ils avaient l'intelligence de leurs propres intérêts, viendraient en foule au socialisme, non par philanthropie, par pitié des misères ouvrières, par affectation et snobisme, mais pour se sauver eux-mêmes, pour assurer le sort de leurs femmes et de leurs enfants, pour remplir leurs devoirs de classe. Ils devraient être honteux de s'être laissés devancer dans la bataille sociale par leurs camarades de la catégorie manuelle. Ils ont bien des choses à nous enseigner, mais ils en ont beaucoup à apprendre d'eux. Les ouvriers ont un sens pratique supérieur au leur, et ils ont fait preuve d'une intuition instinctive des tendances communistes de la production capitaliste qui leur fait défaut. Et ce n'est que par un effort intellectuel conscient qui leur est permis d'arriver à cette conception. Si seulement ils avaient compris leurs propres intérêts, il y a longtemps qu'ils auraient retourné contre la classe capitaliste l'instruction qu'elle leur a si généreusement distribuée pour mieux les exploiter, et qu'ils auraient utilisé leurs capacités intellectuelles qui enrichissent leurs maîtres comme autant d'armes perfectionnées pour les combattre et pour conquérir l'émancipation de leur classe, la classe salariée. La production capitaliste, qui a bouleversé les anciennes conditions de vie et de travail, en élabore de nouvelles, que déjà, sans être devin, on peut entrevoir, mais qui reste scellé sous sept sceaux pour les intellectuels. Une des lumières de l'intellectualisme, M. Durkheim, dans son bouquin « La division du travail », qui a eu du retentissement dans les milieux universitaires, ne peut concevoir la société que sur le patron social de l'antique Égypte, chaque travailleur restant sa vie durant, parqué dans un seul et même métier. Cependant, à moins d'avoir le malheur d'être affecté de la désespérance myopie de l'école normale, on ne peut s'empêcher de voir que la machine supprime les métiers les uns après les autres pour n'en laisser subsister qu'un seul, le métier de mécanicien, et que lorsqu'elle aura terminé son œuvre révolutionnaire que les socialistes compléteront en révolutionnant la base propriétaire de la société capitaliste, le producteur de la société communiste labourera et sèmera à la machine aujourd'hui, filera, tournera le bois ou rabotera l'acier demain et exercera tour à tour les métiers les plus divers au grand profit de sa santé et de son intelligence. Les applications industrielles des sciences mécaniques, chimiques et physiques, qui, accaparées par le capital, martyrisent le travailleur, dès qu'elles seront propriétés communes, émanciperont l'homme du travail et lui donneront des loisirs et la liberté. La production mécanique, qui sous la direction capitaliste ne sait que balloter le salarié des périodes de surtravail aux périodes de chômage, développée et réglementée par une administration communiste, n'exigera du producteur pour pouvoir aux besoins normaux de la société qu'une présence maximum de 2 à 3 heures sur le chantier de travail. Ce temps social de travail nécessaire rempli, il pourra librement jouir des plaisirs physiques et intellectuels de la vie. L'artiste alors peindra, chantera, dansera. L'écrivain écrira, le musicien composera des opéras, le philosophe bâtira des systèmes, le chimiste analysera les corps, non pour gagner de l'argent, pour recevoir un salaire, non pour mériter des applaudissements, pour conquérir des couronnes de laurier comme les vainqueurs des Jeux Olympiques, mais pour satisfaire leurs passions artistiques et scientifiques. Car on ne boit pas un verre de champagne et on n'embrasse pas une femme aimée pour la galerie. L'artiste et le savant pourront alors répéter les enthousiastes paroles de Kepler, ce héros de la science. L'électorat de Saxe, avec toutes ses richesses, ne vaut pas le plaisir que j'ai ressenti en composant le Mysterium Cosmographicum. Les intellectuels finiront-ils par entendre la voix des socialistes les appelant à la rescousse pour affranchir la science et l'art du joug capitaliste et libérer la pensée de l'esclavage du salariat? Conférence faite à l'hôtel des sociétés savantes le vendredi 23 mars 1900 dans la réunion organisée par le groupe d'étudiants collectivistes adhérents au POF. Paru en feuilleton dans le Socialiste du 15 avril au 3 juin 1900.